L'État d'Israël et surtout Yad Vashem donnent une importance accrue à cette visite du pape François. Et c'est ce qui le directeur, le docteur Chalev, a souligné dans la conférence de presse qui s'est tenue exactement à Yad Vashem le jeudi 22 mai. Où il a dit, il a déclaré que ce sera un grand honneur pour Yad Vashem que de recevoir le pape François, chef représentant d'une communauté de plus de 1 300 millions de catholiques. Et ce sera la troisième visite d'un pape après celle de Jean-Paul II et en 2000 et de Benoît XVI en 2009. Les relations cordiales que Jorge Mario Bergoglio a su tisser en Argentine avec les Juifs sont déjà bien connues. Et tout comme son estime pour le judaïsme, ainsi que sa position sur la Shoah. Et il se place donc dans la continuité de ses prédécesseurs et dans une attitude de grande proximité avec le peuple juif. Dans ce contexte, le pape François rencontrera des rescapés à l'Holocauste, 6 survivants. Et en plus que ça, viendra raviver la flamme de la salle de souvenirs et prendra la parole devant les plus hautes personnalités de l'État d'Israël. Et son discours sera le seul discours. Donc, ce sont des signes de distinction qui expriment combien d'importance Yad Vashem donne à cet événement.
Ce mémorial évoque la mort, mais on peut imaginer que cette cérémonie, cette visite du pape, cette présence du pape, les prises de parole des différents intervenants, notamment, je crois, les rescapés, laisseront aussi, disons, espérer. Il y aura des paroles d'espoir qui seront prononcées dans ce mémorial de la mort.
Oui, bien sûr. Et c'est ce que était inscrit aussi sur le slogan de Yad Vashem, non? Se souvenir du passé pour façonner l'avenir. Donc, dans un endroit où on documente, on étudie le passé, qui est un passé de souffrance et de mort, on a cette vision pour l'avenir, non? Et depuis 60 ans, Yad Vashem est avant tout ce lieu qui conserve le souvenir, la mémoire. Mais l'histoire, comme l'a dit le docteur Chalev, doit servir de base pour aller de l'avant et nous engager tous ensemble, hein, à bâtir un avenir meilleur. Et en ce sens, la visite du pape réaffirme l'engagement commun à lutter contre toutes les formes d'antisémitisme et d'anti-humanisme. C'est ça, s'aperçoit très clairement que à Yad Vashem, l'Église catholique est perçue comme un ami et donc une institution qui lutte contre toutes les formes d'antisémitisme et d'anti-humanisme.
Au mémorial Yad Vashem, je dirais qu'il y avait un texte qui posait problème, la didascalie qui se trouvait en dessous de la photo de Pie XII. Ce texte a subi des modifications sensibles. Est-ce qu'aujourd'hui ces modifications apportées au texte qui mettait en doute finalement l'action du pape Pie XII durant la guerre pour sauver des juifs, ces prétendus silences, est-ce que ce texte aujourd'hui est satisfaisant pour le Saint-Siège?
Bon, faisons un peu d'histoire, très bref, très brièvement. En 2005, la première didascalie a été placée, qui, comme vous l'avez dit, jetait des doutes sur la qualité morale même du pontife, de Pie XII, pour ce prétendu silence. Et cette description qui était en quelque sorte aussi offensive, a obtenu la réaction du nonce Antonio Franco, qui en 2006 a refusé d'attendre une cérémonie officielle à Yad Vashem, en disant qu'il ne pouvait accepter d'aller dans un lieu où le pape qu'il vénérait et qu'il vénère était présenté en cette manière-là. Alors, c'était une prise de position qui a donné un peu de un choc, non? Mais comme il est encore dans le style du Antonio Franco, il a continué le dialogue avec les historiens de Yad Vashem et les a invités à étudier de plus près la position complexe du Vatican et de Paul XII. Et une des premières choses qu'il
Pie
a fait, Pie
XII.
XII, oui, une des premières choses qu'il a fait, Monseigneur Franco, il a donné à Yad Vashem, au centre d'études et de documentation, la documentation que Paul VI avait déjà préparée avec l'aide du Père Blais, non? Les 15 volumes des actes et documents concernant le rôle du Saint-Siège pendant la guerre. Et avec surprise que Yad Vashem n'avait pas encore connu cette documentation. Alors, une période de réflexion, d'étude de la part des historiens a commencé, qui a porté à une première résultat positif les journées d'études entre les historiens chrétiens et juifs venus de la France, des États-Unis, d'Italie, de l'Australie. Pendant 2 jours, ils se sont confrontés dans une atmosphère, voilà la nouveauté, de respect mutuel, au-delà de, comment dirais-je, des positions stéréotypes, pire encore, des préjugés idéologiques. Et cela a donné comme résultat une publication qui est apparue il y a 2 ans, où donc la réalité de ce qui s'est passé dans les années 30, à la fin des années 30 jusqu'à 44, la réalité est présentée dans des formes plus objectives. Cette rencontre avait été conjointement organisée par Yad Vashem et par la faculté de théologie salésienne de Rome. Après ça, moi-même, j'ai été invité à donner une conférence dans le séminaire pour les éducateurs des éducateurs, non, qui se tient chaque année, le mois de juillet. Je présentais une documentation de ce que Papa Eugenio Pacelli avait déjà dit contre le nazisme quand il était nonce en Bavarie et après à Berlin. Et ce qu'il avait dit et il avait fait à côté de Pie XI, et après, toutes ces interventions publiques, comme les radiomessages du Noël 42, et les interventions secrètes avec lesquelles il a donc aidé à créer un tissu d'initiatives pour sauver les Juifs et d'autres persécutés. Alors, cela a porté, le fruit de ces recherches, a porté à changer la didascalie. Maintenant, ce n'est pas une didascalie qui est intitulée Pie XII et l'Holocauste, mais le Vatican et l'Holocauste. Il commence par Pie XI et la contribution qu'il a donnée. Après, il continue en disant que Pie XII a été efficace en mettre en mouvement une série d'initiatives pour sauver des Juifs. Et cite le radiomessage de 42. Et évidemment, à cette étape de la recherche, quelques zones d'ombre restent encore, selon les historiens juifs, qui attendent l'ouverture des archives vaticanes, parce qu'ils pensent que dans les archives vaticanes, il y a quelque chose qui pourrait vraiment qu'on dirait, confirmer leur perception que Pie XII n'a fait tout ce qu'il pourrait faire dans ces circonstances-là.
Alors, l'ouverture prochaine, ou en tout cas annoncée, espérée, des archives du Vatican sur cette période, c'est une chose, mais on peut aussi espérer que l'on s'intéresse, et notamment les Juifs, que s'intéressent aux documentations et aux archives des délégations apostoliques de par le monde. Je suppose que tout ça doit être mis ensemble pour recréer le contexte et avoir toute la documentation possible.
Bien sûr, ils sont comme des tesserets, des mosaïques. Et il n'est pas correct d'isoler Pie XII et les Juifs, au Vatican et les Juifs. Donc la réalité était beaucoup plus complexe. Et si les archives des institutions comme les nonciatures, les délégations apostoliques, un peu partout le monde, y compris aux États-Unis, y compris, il y avait la représentation pontificale, pas une nonciature à l'époque, non? Mais cela donnerait aux historiens la possibilité de vraiment reconstituer tout le tableau de là. Mais je dirais que aussi les archives hébraïques devraient être ouvertes totalement, pas seulement ici, à Jérusalem, l'archive centrale, mais aussi dans d'autres places. Et en ce contexte, je dirais que nous, comme catholiques, nous serions très intéressés à revoir l'archive de la délégation apostolique qui se trouvait ici à Jérusalem sur les monts Sion, la délégation qui a été détruite. Le bâtiment était complètement détruit par l'armée israélienne dans la guerre du 48, et les archives ont été prises, et on ne sait pas où se trouvent, ou bien on soupçonne où ils se trouvent. Donc, dans un rapport de réciprocité, il faudrait aussi avoir cette documentation pour pouvoir vraiment. Et un autre point, ouvrir une archive, ce n'est pas comme ouvrir une bibliothèque où tout est catalogué et tu vas dans un secteur et tu trouves le livre, les publications, les magazines que tu veux, les magazines, les périodiques, les journaux. Une archive, c'est un lieu où il y a des récoltes différentes de matériaux écrits ou photographies ou mémoires, etc. Et avant tout, il faut faire un inventaire. Après, il faut cataloguer selon des critères qui sont scientifiques. Et tout cela prend du temps. Prend du temps. Mais c'est ce que le Saint-Siège a commencé à faire et qui est un travail en progrès maintenant. Et nous souhaitons que, et dans un terme proche, les historiens pourront vraiment se concentrer à étudier ces documents. J'ai l'impression que la personnalité et l'action de Pie XII sera, comme résultat, encore plus, dirais-je, admirable, parce que dans les circonstances où il s'est trouvé, il a agi vraiment comme aucun des leaders, des leaders contemporains a agi. Et cet acknowledgement, non, comment dirais-je, questo riconoscimento,
Cette reconnaissance.
cette reconnaissance lui a été donnée par dizaines ou douzaines de représentants du judaïsme, toutes à la fin de la guerre, entre Golda Meir, entre aussi les rabbins Herzog qui ont reconnu et que Pie XII, dans les circonstances où il se trouvait, a fait tout ce qu'il pouvait faire. Et que lui-même, Pie XII, a confessé, dans une audience qu'il a donnée à des rescapés, qu'il regrettait de n'avoir pas pu faire encore plus.
Alors, on espère en tout cas que tout ça aille de l'avant, même si ça demande du temps. On espère aussi finalement des autorités israéliennes et puis du monde juif parfois un peu plus de souplesse. En tout cas, un signe positif, c'est que récemment la Knesset a rendu un hommage appuyé à Jean
Oui,
XXIII.
oui, oui. Et cela, c'est un autre signe de l'atmosphère qui règne maintenant, on peut dire, entre et les institutions au niveau officiel, et chrétiennes et juifs, et ici à Jérusalem ou en Israël. Et le fait que la Knesset, dans une séance extraordinaire, a voulu célébrer le rôle que Angelo Giuseppe Roncalli a eu pour sauver des Juifs et quand il était à Sofia, en Bulgarie, ou à Istanbul, en Turquie. C'est un grand signe d'admiration, de reconnaissance. Et je voudrais faire, je fais une considération personnelle, hein, si je pourrais la faire. Et c'est la suivante. Angelo Giuseppe Roncalli, à l'époque, était le représentant du pape, qui était Pie XII. Or, dans la logique des relations entre un représentant, entre un ambassadeur et son supérieur, il y a toujours le respect, l'obéissance. Donc, l'ambassadeur cherche d'appliquer les directives qu'il reçoit de son supérieur. En conclusion, en reconnaissant le rôle qu'a joué Angelo Giuseppe Roncalli, au moins implicitement, la Knesset a reconnu aussi le rôle que Pie XII a joué. Parce que Roncalli, comme les autres nonces de Lisboa ou de Madrid ou d'autres cités ou d'autres capitales, n'ont pas agi de leur propre initiative, mais en appliquant, disons, obéissant aux directives qu'ils recevaient. Donc, c'est une autre fenêtre qui s'ouvre, à mon avis, et qui ajoute à l'atmosphère de confiance qu'il y a maintenant entre historiennes et entre institutions. C'est quelque chose qui on peut croître davantage et nous souhaitons que la visite du pape, pas seulement à Yad Vashem, mais aussi au grand rabbinat et aussi la rencontre avec le chef de l'État et le premier ministre, contribueront à promouvoir une atmosphère de mutuelle confiance et de collaboration dans tous les domaines, pas seulement le domaine de la recherche historique, mais aussi dans le domaine du dialogue religieux et dans le domaine de la recherche de la paix, comme c'est formidable ce que le pape a dit, vient de dire aujourd'hui même, non, sur la place de la Mangeoire à Bethléem, avant le récit de la Regina Coeli, il a invité expressément le président Pérez et le président Abbas à se rendre à Rome pour prier ensemble pour la cause de la paix. Et il a ajouté, le pape François, je vous invite à me rejoindre dans ma maison au Vatican. C'est quelque chose d'extraordinaire, cette invitation est vraiment un signe que l'esprit travaille et que je pense que c'est une invitation qui ne tombera dans les vides, parce que les deux sont vraiment intentionnés et animés de bonne volonté. Ils se rendent compte que pour l'intérêt de leurs deux peuples, il faut donner à à la paix une chance. Il faut avoir le courage d'aller dans l'avant en renonçant aussi, en faisant quelques sacrifices d'une part et de l'autre, mais pour rejoindre l'objectif d'une paix qui donnera aux deux peuples la possibilité de vivre en des États souverains avec des conditions de respect mutuel. Espérons-le et continuons à prier, non, afin que cette invitation du pape puisse se réaliser dans le prochain avenir.
Un avenir prochain, je dirais, puisque si les deux hommes sont d'accord, ils doivent faire vite, puisque M. Pérez est en fin de mandat présidentiel.
Ah oui, vous avez raison. Vous avez raison. Mais on pourrait penser ou espérer que cette rencontre aura lieu dans l'avenir prochain. Et nous prions pour cela. Et nous encourageons les deux, non? Pérez et Abbas, avec tout notre encouragement et solidarité, afin qu'il accepte cette invitation du pape.